Bonjour à tous et bienvenue autour de cette grande table. Les villes, acteurs majeurs de la marche du monde et grandes oubliées des débats à la veille du scrutin municipal. Invité de 12h55, l'urbaniste Jean-Marc Hoffner. Implanté à Bordeaux, il revient sur les 7 dogmes qui nous empêchent de réinventer la ville dans Anachronismes urbains, publié aux presses de Sciences Po. Mais d'abord, j'ai parfois le sentiment qu'on nous fait vivre dans une fiction, et cette fiction ou ce mensonge m'est insupportable, disait-il il y a 10 ans dans Déninx par Déninx. Néanmoins, il ne renonce pas à celui pour qui l'écriture reste un lieu de résistance, explore ce réel fiction dans 3 livres, un roman noir de l'histoire chez Verdier, un tract chez Gallimard et la parution en folio le 5 mars de son roman Artana Artana. Écrivain prolixe, auteur d'une centaine de livres, Didier Déninx est notre invité à écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard sur franceculture.fr.
La grande table. Olivia Gesbert.
Le roman noir de l'histoire, un recueil de 77 nouvelles classées par ordre chronologique de 1855 à 2030, un siècle et demi dans l'histoire de France, en repartant des oubliés de l'histoire, de la figure du déserteur à la Madone de la Plaine, du contrebandier espagnol de 1938, au gitan belge en exode, de la Commune à la Grande Guerre des années 30 aux guerres coloniales. Bonjour Didier Déninx.
Bonjour.
Ordonner le réel, c'est la mission que vous vous êtes assignée, ou en tout cas que vous assignez au roman. Construire le sens. Quel sens construisez-vous avec cette fresque historique qui paraît chez Verdier? Quel sens lui donnez-vous?
Ben c'est un petit peu le sens de 40 ans d'écriture, parce que j'ai toujours écrit dans l'urgence des romans qui s'imposaient, puis énormément de nouvelles. C'est vraiment une respiration qui m'est nécessaire, la nouvelle courte ou longue. Et donc j'ai répondu à des commandes, à des demandes, à des hasards comme ça. Et puis je me suis pas aperçu que, pendant 40 ans, ces nouvelles, il y en avait 2500 pages, ça racontait 150 ans d'histoire contemporaine française, là. La fabrication des idéologies, des partis, des syndicats, les grands moments des années 30, de la résistance, puis après des décolonisations. Et puis c'est un ami qui m'a dit qu'il avait cette vision de ce que j'avais écrit. Et j'ai passé quelques temps à tout ordonner de manière très très simplement, de manière chronologique. Et d'un seul coup, il y avait ce mouvement comme ça qui était là, mais qui était quelque chose d'un petit peu caché à mes yeux.
Donc, oui, c'est ça. Et vous avez cette jolie formule de projet secret, peut-être un projet secret dans votre vie en assemblant ces nouvelles. Vous avez, semble-t-il, réalisé la continuité, la logique presque incroyable de votre travail depuis 40 ans, dans ces 40 années d'écriture que vous avez menées. Elles ont toutes été publiées, ces nouvelles, d'une manière ou d'une autre, ou
Il y en a un tiers à peu près qui était dans des petites revues comme ça, qui avait eu des diffusions extrêmement restreintes.
En tout cas, vous n'avez pas réécrit pour...
J'ai rien réécrit. Et une autre surprise, c'est que les nouvelles, comme on ne peut pas savoir à quel moment elles ont été écrites, si elles ont été écrites il y a 30 ans, il y a 20 ans, il y a 40 ans ou il y a 6 mois, il y a une sorte d'unification du style comme ça par ce dispositif qui est aussi extrêmement étonnant.
Quoi. Mais vous le savez, vous pourriez nous dire quelle est la première à avoir été écrite par...
Non, je m'en souviens plus. J'ai pas mis les dates. C'est l'éditeur à la fin qui a fait une sorte de sommaire et qui a essayé de retrouver les premières publications, mais moi je m'y perds complètement, c'est-à-dire j'ai pas ce regard sur ce que j'ai écrit. Il y a des grandes interrogations comme ça sur la guerre de 14, sur la guerre d'Algérie, sur ces choses-là, donc ça je vois à peu près. Mais il y en a d'autres, il y en a même certaines, je me souvenais même plus que c'était de moi, quoi.
Il y a des réalisateurs qui ont du mal à revoir leurs films, et notamment leur premier film. Vous, en relisant toutes ces nouvelles, et certaines qui datent donc d'une quarantaine d'années, est-ce que vous vous êtes retrouvé dans cette écriture, c'est-à-dire formellement et dans le fond aussi?
Oui, surtout dans le fond, c'est-à-dire le... j'ai pas l'impression, quand je reprends ça, il y en avait 2500 pages, là il y en a 1000 pages publiées, j'ai pas l'impression d'avoir renié le jeune homme que j'ai été, quoi. Donc il y a vraiment ça, il y a une constance, bon, avec le réel qui vous pousse dans vos retranchements sur beaucoup de sujets, mais le cœur de la nécessité d'écrire, c'est-à-dire d'essayer de restituer les pages arrachées à l'histoire, je crois que ça reste, c'est la constance. constante. Ça, quand j'ai relu les 2500 pages, il y avait vraiment ça, quoi.
Et alors, le jeune homme que vous avez été par rapport à l'homme d'aujourd'hui, il était comment? Vous le revoyez comment? Est-ce que vous diriez qu'il était plus candide, plus naïf, plus chien fou?
Oui, il y avait le côté chien fou. Et
plus optimiste?
Plus optimiste parce que il n'y avait pas eu pour moi une date qui a énormément compté et qui a été un basculement. C'était en 68, mais c'était pas le mois de mai, c'était le mois d'août quand le socialisme dans la liberté à Prague comme ça a été écrasé par les chars soviétiques. C'était la fin de l'histoire. Donc je savais que à ce moment-là, tout ce que j'avais porté pendant jusqu'à mes 20 ans était en train de se déliter à jamais. Donc c'est cette date-là qui pour moi est vraiment très très importante, quoi.
68, vous écrivez déjà?
68.
Parce que votre premier grand succès public, c'est 84 avec Meurtre pour mémoire.
Non, 68 avec des amis, on avait fondé un journal surréaliste qu'on imprimait nous-mêmes et qu'on distribuait de très bonne heure le matin devant les usines en grève.
Dans ce roman noir de l'histoire qui paraît chez Verdier, Didier Desnin, que ce sont les mêmes oubliés qui peuplent vos romans, hein, depuis justement Meurtre pour mémoire sur le massacre du 17 octobre 1961, avec en toile de fond une réalité sociale, politique, historique, et puis la mémoire, thème très important pour vous, comment faire mémoire, refaire mémoire. Pourquoi cette réalité, elle a été occultée pendant si longtemps, et surtout qu'est-ce qu'on gagne, d'après vous, à la remettre en lumière?
Faut revoir comment ce qui s'est joué pendant la guerre d'Algérie. On n'avait pas les micros ouverts comme aujourd'hui. On n'avait pas une presse libre. Il y avait des éléments de censure. Donc moi j'ai vécu avec une partie de la réalité occultée, mais on le savait. C'était la règle du jeu. Les journaux paraissaient avec des demi-pages en blanc parce que des choses déplaisaient au pouvoir. Il n'y avait pas de télécommande parce qu'il n'y avait qu'une chaîne de télévision. Donc il y avait un seul bouton. Il y avait une voix unique qui était là. Ce qui fait que dans cette atmosphère là, il y a toute une série d'éléments qui ont disparu à la conscience. Et moi, en plus, dans ma vie, j'ai pu être confronté à des énigmes de l'histoire. La famille avec un grand-père déserteur qui m'a élevé. Donc le thème de la désertion, c'est quelque chose aujourd'hui qui est commun, mais dans les années 50, c'était quelque chose qui était de l'ordre du tabou. Puis la guerre d'Algérie, c'est la mort de manifestants, puis une voisine qui est tuée, une amie de ma mère, puis une autre voisine qui a beaucoup compté, qui s'appelait Madame Renaudat, qui a été piétinée à Charonne et elle est restée pendant 20 ans sur son lit sans plus jamais dire un mot, sans jamais plus faire un geste. Et ces gens-là, comment leurs noms ont disparu, leur expérience tragique a disparu. L'histoire, une journée, le 8 février 62, pour elle, ça a duré 20 ans jusqu'à sa disparition. Et personne n'a jamais été jugé coupable de ce martyr. Et donc là, aujourd'hui encore, il y a une demande de justice. Et ce que ça apporte, par exemple, le long combat que j'ai mené et que je mène encore sur la reconnaissance du 17 octobre 61, du massacre des Algériens, j'ai assisté à une chose bouleversante à Nanterre, là où il y avait le bidonville. Un jour, il y a une rue qui s'est appelée la rue du 17 octobre 61, il y avait des gens qui étaient là, des familles de victimes, et c'était le seul endroit au monde où on parlait des leurs qui avaient disparu, une plaque de rue. Donc voilà, ça peut être aussi dérisoire et aussi essentiel que ça, le combat qu'on mène. Et c'est un combat pour aboutir à une plaque de rue, ça demande 40 ans de bagarre contre le silence. Donc c'est ça, mon boulot, mon écriture se passe dans cet espace-là, depuis toujours. C'est aussi simple et aussi exigeant que ça, quoi.
Voilà, les temps ont changé, hein. La presse s'est un peu libérée, les micros se sont ouverts. Et la mémoire aussi et la parole, mais ce projet, il reste intact, cette nécessité de faire vérité, de mettre en lumière aussi les oubliés de l'histoire, et c'est aussi le fil conducteur de votre travail, de votre écriture, Didier Desnin. C'est aussi un besoin, une nécessité qui était au cœur d'un projet que vous connaissez bien, le Métron, le dictionnaire biographique du mouvement ouvrier et du mouvement social, auquel fait penser votre roman noir de l'histoire par certains aspects. À l'occasion de la parution de son livre « Voyage en terre d'espoir, promenade subjectif dans ce Métron », Edwige Plenel, le boss de Mediapart, nous parlait de ces deux facettes de l'histoire, l'histoire musée des dominants et l'histoire en construction des dominés.
C'est une vieille bataille. Il y a l'histoire antiquaire, c'est une formule de Nietzsche, hein. C'est l'histoire musée, c'est l'histoire qu'on enferme, qu'on fige, c'est l'histoire qui vous assigne justement, qui vous immobilise. Elle crée aussi cette république sans adjectif. Dressez l'oreille quand vous entendez des gens parler de la République et ne pas rajouter démocratique et sociale. Ce sont des gens qui veulent que la République soit immobile, qu'elle ne bouge plus, qu'elle soit du côté des possédants, du côté de ceux qui sont justement les vainqueurs, l'éternité des vainqueurs, qui n'ont que leur loi de pouvoir et de puissance et d'avoir. C'est l'histoire des méconnus, des moins connus, c'est cette histoire. Jamais il n'y a de grands hommes. Les grands hommes n'existent que parce qu'il y a des peuples. Vous nous interrogiez sur Fidel Castro, c'est le peuple cubain qui fait une révolution. Ce n'est pas Fidel Castro, c'est une dynamique, et il faut sortir, même s'il y a un rôle des individus dans l'histoire, de cette façon de ramener des événements historiques à un seul, au grand temps et au grand même du pouvoir et de l'identité.
Voilà, vous êtes d'accord avec cette lecture de l'histoire, cette manière de la présenter ?
Oui, bien sûr, puis le Métron, c'est une aventure à laquelle j'ai un petit peu participé, j'y suis même entré par effraction dans le dictionnaire des anarchistes.
Qui vous y avez invité ? Les responsables du Métron ?
Oui, oui, aussi, hein. Il y a une petite annexe comme ça sur le mouvement anarchiste comme ça. Puis c'est pareil, c'est un combat de ressusciter des parcours comme ça. Il y a certaines notices que j'ai alimentées. Quoi.
Vous allez retrouver les Kanaks de Cannibal et de Retour d'Ataï prochainement dans un nouveau roman, La Nouvelle-Calédonie au temps des indépendances. Ce sera le thème de votre prochain roman. Ils sont là aussi, les Kanaks, dans ce roman noir de l'histoire. Ils ont leur place.
Oui, bien sûr. C'est à chaque fois la surprise comme ça. Comment se traduit l'esprit colonial? Comment pour les Kanaks, pendant la guerre de 14, il y en a un millier qui sont venus combattre au chemin des dames. Et sur les Kanaks, il y en a 50% de pertes. Et il y avait aussi dans le régiment des Caldoches, c'est-à-dire des Calédoniens d'origine européenne, qui ont eu 25% de pertes. Et en me baladant à Nouméa, c'était au début des années 2000, il y avait le monument aux morts. Et sur le monument aux morts de Nouméa, de la guerre de 14, il y avait tous les noms des Caldoches, des jeunes tués d'origine européenne. Et il y avait uniquement un chiffre pour les Kanaks. Et donc, il y a eu un combat à mener. Donc ça, c'est vraiment la vision que j'ai de la manière dont l'histoire coloniale, pour beaucoup de gens, c'est une histoire qui est terminée. La parenthèse s'est totalement refermée. Et quand vous êtes là avec les gens, vous voyez la manière dont l'idéologie coloniale dicte encore sa loi dans les territoires de la République. Et il y a encore énormément de choses à regarder, à déconstruire et puis reconstruire une histoire qui soit une histoire beaucoup plus plurielle, quoi.
Est-ce que la littérature, pour vous, Didier Desnin, c'est aussi le moyen de se procurer ou de procurer au lecteur de l'espoir en contrebande, pour reprendre le titre d'une des nouvelles qui figure dans ce recueil, le roman noir de l'histoire, dans la partie qui couvre les années 30, qui était aussi le titre d'un de vos recueils de nouvelles, prix Goncourt de la nouvelle?
Oui, bien sûr, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que dans les périodes les plus noires, les périodes les plus fermées comme ça, on arrive à trouver des gens. Par exemple, la Commune, c'est un échec sanglant. C'est 25 000 morts dans les rues de Paris, des gens qui sont déportés, les déportés d'Algérie aussi. Donc il y a ça. Et puis quand on regarde de près, on voit qu'il y a des gens qui sont en train de bâtir le monde de demain. Donc je m'étais intéressé à un personnage qui était Maxime Lisbonne, une sorte de Coluche pendant la Commune. Et on a des gens qui, dans la période de la plus grande nuit comme ça, arrivent complètement à donner le là pour les temps à venir. Donc c'est ça, moi, qui m'intéresse, c'est de rechercher ça. La figure, je me suis intéressé pendant longtemps à la figure de Missak Manouchian. Missak Manouchian, qui est un apatride, qui s'engage dans l'armée française, qui est fusillé en février 44. Sa dernière lettre, c'est un hymne à la vie. Et donc là, on a des gens comme ça qui vous projettent extrêmement loin. Mais il y en a mais il y en a des millions. Moi, j'essaie de chercher comme ça les gens qui font le lien entre Spartacus et Mandela. Hein. Et entre ces deux personnalités, il y a des millions et des millions d'individus qui nécessitent qu'on regarde leur parcours. Quoi.
Il y a une fonction d'archivage aussi dans votre travail d'écrivain, de mémorisation. Et c'est aussi une fonction que vous attribuez à la photographie, que vous pratiquez. Willy Ronis, avec lequel vous avez travaillé avant sa mort, disait « La photographie, c'est l'émotion ». Vous diriez pareil de la littérature, de l'écriture ?
Je sais pas, c'est très très compliqué. Bien sûr, les photos de Willy Ronis, j'en connais des milliers comme ça. Il y a toujours ça. Je l'ai fréquenté pendant les 20 dernières années de sa vie. C'était un photographe qui n'était pas en face de ces personnages. Quoi. Mmh. Il était avec eux. Il est toujours dans la photo qu'on regarde. Il y a véritablement le regard d'humanité totale et d'exigence.
Mais vous aussi, vous êtes dans une forme d'empathie par rapport à vos personnages.
Oui, mais c'est beaucoup plus compliqué avec la littérature. C'est-à-dire, il y a tout un tas d'aspects comme ça de mes personnages sur la tendresse et tout que je mets de côté. La photographie, il arrive à capter ces choses-là et c'est jamais mièvre. Donc avec la littérature, il y a vraiment des précipices comme ça de mièvrerie et je m'en écarte.
Vous
donc,
pas, quand
je
vous
reste un petit peu plus sec.
Et quand vous sortez votre appareil photo, c'est plutôt pour garder des traces ?
J'ai fait de la photo pendant assez longtemps, mais j'ai arrêté il y a au moins une quinzaine d'années, donc j'en fais pratiquement plus, sauf les photos qu'on fait tous. Mais c'est pas des photos avec les appareils téléphones, quoi. C'est des clichés téléphones, quoi.
Des clichés téléphones. Didier Deninx, écrivain, est notre invité jusqu'à midi et demi. France Culture, il est midi 18. Dans l'actualité musicale aujourd'hui, c'est un « il s'en est allé » avec cet hommage à un titan de la musique, comme l'a surnommé le label de jazz Blue Note Records. « My Favorite Things » par le quartet de John Coltrane avec au piano cet ex du mythique quartet, le pianiste McCoy Tyner, qui est décédé le 6 mars dernier, vendredi, à l'âge de 81 ans.
France Culture. La Grande Table, Olivia Jesbert.
Avec notre invité, l'écrivain romancier Didier Deninx, dans Le Géant inachevé déjà en 86, en pleine campagne municipale derrière l'inspecteur Cadin, puis dans Artana, Artana sorti en 2018, réédité en folio ce mois-ci, la corruption de la classe politique est à l'honneur, où le héros, Éric Quetezer, revient sur les lieux de son enfance à Courvilliers, fief communiste de la région parisienne, désormais gangréné par la violence, une commune entre corruption et trafic de drogue. Le royaume du piston, du passe-droit, du clientélisme, de l'abaissement moral. Didier Deninx, est-ce que vous pourriez nous lire un extrait de ce roman, Artana, Artana, où l'homme revient sur les lieux et redécouvre la ville de son enfance?
Je repose ma tasse sur la table basse. C'est vrai que ça a sacrément changé. J'ai eu l'impression, en y revenant, que je déambulais dans une ville différente de celle que j'avais connue, beaucoup plus dure, presque hostile. J'y ai vécu par intermittence, d'accord, mais les gens se bougeaient ensemble. J'aimais bien ce mélange de quartiers ouvriers, de secteurs un peu voyous, de lieux culturels où l'on pouvait passer des heures à se tordre le nombril à propos d'une mise en scène, d'une pièce de Brecht ou d'un film de Godard. Le maire de l'époque, que tout le monde surnommait le commandeur, faisait venir sur un claquement de doigts et pour un public de prolos les plus grands esprits, les sommités de l'histoire, de la philosophie. Un sourire teinté d'ironie passe sur son visage. Ouais, je vois exactement ce que tu veux dire. J'ai mis longtemps à comprendre, il se reprend. Non, pas à comprendre, ce n'est pas la bonne expression, plutôt à admettre que c'était un rideau de fumée. La vie est beaucoup plus simple quand on se ment à soi-même, beaucoup plus simple. En fait, la ville pourrissait sur pied, la mauvaise herbe poussait entre les pavés, on se disait que c'était des espaces verts. Les usines fermaient les unes après les autres, les commerces suivaient, tous ceux qui avaient un peu de fric déménageaient en pressentant la catastrophe. Pendant le règne du commandeur, Courvilliers a perdu plus de 10 000 habitants. Des quartiers ont été littéralement abandonnés tout au long de ces deux décennies, quand Montreuil faisait l'exact contraire en attirant les Parisiens, les fameux bobos pris à la gorge par l'augmentation des loyers et du foncier. À Courvilliers, ils ont créé le ghetto de manière délibérée. Du logement social à tire-larigot pour maîtriser la sociologie électorale, un abandon du parc privé qui s'est transformé pour partir en terrain de jeu des marchands de sommeil. Pour assurer son pouvoir, le commandeur a appliqué la règle d'or de tous les politiciens aguerris, s'entourer de médiocres. Avant, ce n'était pas des flèches, mais leur dévouement à la cause commune, à la promesse sociale, compensait leur sectarisme. Ils étaient de bonne foi, même dans l'erreur. Les nouveaux ont les défauts des anciens, sans avoir hérité d'aucune de leurs qualités.
Municipal, banlieue naufragée, titre de votre tract, Didier Deninx, tract coup de poing publié chez Gallimard à la veille du scrutin local. Ce texte est un peu le pendant non-fictionnel de votre roman Artana, Artana qui paraît en poche ce mois-ci et dont vous venez de nous lire un extrait. C'est l'occasion pour vous d'un retour sur les liens personnels et affectifs qui vous lient avec cette banlieue parisienne et notamment Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis dans le 93, suivi de votre colère et de votre déception. Durant les 30 glorieuses, ces municipalités ouvrières voulaient améliorer la situation matérielle et morale des classes laborieuses, dites-vous, des territoires maillés par des associations sociales ou culturelles organisées pour que ces vies s'intègrent au collectif. Un des ciments de cette communauté disparate a longtemps été la solidarité avec le monde en lutte, écrivez-vous, d'ici ou d'ailleurs. Quand ou comment Aubervilliers a-t-elle perdu l'équilibre, Didier Deninx? Comment cette banlieue rouge a-t-elle mal tourné à vos yeux?
Ça s'est fait par étapes. Comment? Je me souviens d'un moment de grande détresse dans les banlieues, 2005, quand il y a les émeutes, quand tout brûle comme ça. Une ville comme Aubervilliers, il y a encore ce passé qui est prégnant et la ville échappe au pire. Et donc en 2005, il y a eu ça. Mais en 2014, j'ai vu véritablement arriver la catastrophe. Moi, en 2014, des gens me disent que c'était un petit peu plus tôt. Et c'est quand, en 2014, un pouvoir qui ne représentait pratiquement plus rien va s'adresser à des communautés de voyous ou des communautés de spirituelles pour acheter des voix et pouvoir faire perdurer leur pouvoir. Donc moi je le la catastrophe, c'est véritablement mars 2014 pour moi.
Mmh. Aubervilliers, que vous avez d'ailleurs quitté depuis pour Fontenay-sous-Bois, dans le Val-de-Marne, dans le 94, une ville en équilibre, dites-vous, où la mixité sociale existe encore. Vous iriez pour autant sur un tous pourri dans ces municipalités que vous pointez du doigt, ces banlieues naufragées?
Non, c'est par poche. Hein. Il y a des laboratoires. La ville de Bobigny est un laboratoire des compositions pour la droite. La ville de Noisy-le-Sec historiques aussi. Et puis des villes comme Aubervilliers ou Saint-Denis, et encore plus Bagnolet, sont des laboratoires comme ça où d'un seul coup l'éthique politique disparaît complètement. Mais à côté de ça, vous avez d'autres villes où vous avez des élus qui prennent en compte la misère sociale et qui essayent de tirer les gens vers le haut. C'est des villes comme Montreuil ou Fontenay-sous-Bois ou Jatiry, qui sont des villes ouvrières où il y a véritablement cette conscience que faire peuple, c'est pas transformer les gens en clients, c'est les transformer en citoyens exigeants. Donc ça existe encore. C'est vraiment des endroits comme ça où les équipes municipales et les partis politiques ont capitulé devant la force organisée. Et les forces organisées dans certaines banlieues, c'est l'industrie de la drogue, c'est une véritable industrie. Et puis certaines communautés religieuses qui sont extrêmement, extrêmement organisées et qui sont exigeantes. Et qui sont exigeantes pour une part, parce que il faut que les cultes s'exercent normalement et dans une certaine forme organisée. Et puis, il y en a certains qui manipulent complètement les âmes, comme d'autres manipulent le végétal ou la poudre blanche.
Vous ne vous êtes jamais désengagé pour autant. Est-ce que vous espérez quelque chose du scrutin à venir, que les classes populaires retrouvent peut-être des porte-voix, que des mots galvaudés comme le vivre ensemble reprennent sens ?
J'ai pas l'impression que c'est pour maintenant. Et il y a dans le roman noir de l'histoire, la dernière partie, c'est un petit peu ça, la désagrégation de tout ce qui s'est créé il y a 150 ans, toutes les organisations ouvrières, les syndicats, les idéologies, et ainsi de suite. Tout ça, tout est en souffrance comme ça, et on n'est même pas encore aujourd'hui, j'ai l'impression, dans le moment de l'acceptation de cette disparition, et puis la nécessité de reconstruire quelque chose pour les temps à venir. On voit qu'il y a des choses qui sur l'écologie, avec des jeunes filles de 16 ans comme ça qui donnent des leçons à beaucoup beaucoup de philosophes et de politiques. Donc il y a des choses qui sont en gestation et il faut être à l'écoute de ce qui est en train de se créer pour pouvoir recommencer à agir sur le monde. Mais là, je pense pas que ce soit l'échéance municipale qui va faire ce grand pas de géant à la société française.
Voilà, ça c'est pour la banlieue rouge. Vous étiez aussi allié à Béziers en 2014. Est-ce que vous y retournerez pendant 20 ans ? Cette ville, elle avait été dirigée par le maire de droite, Raymond Couder, avant de basculer à l'extrême droite il y a 6 ans, fief aujourd'hui de Robert Ménard, élu en 2014 avec le soutien du Front National. À voir, ce sera peut-être un projet, retourner sur les lieux qui vous ont à un moment appelé. Merci beaucoup à vous, Didier Deninx, d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de vos livres, de cette triple actualité éditoriale, un roman noir de l'histoire chez Verdier, un tract chez Gallimard, municipal, banlieue naufragée, pendant non fictionnel de ce roman paru en folio le 5 mars, Artana Artana. Merci beaucoup.
Merci à vous.